La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a 8 ans, le 17 février 2011, débutait la révolution qui entraîna la chute du régime de Muammar Kadhafi. Et pour célébrer cet anniversaire, des milliers de personnes arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblées hier à Tripoli sur la place des Martyrs. Une ambiance somme toute festive, malgré le calvaire quotidien que vivent les Libyens. Le pays, vous le savez, est miné par une crise politique et économique sans précédent. Alors qu'il y a 8 ans, les Libyens rêvait d'un État démocratique, moderne, il rêvait d'un avenir meilleur. Mais depuis 2011, le pays est plongé dans le chaos, déchiré par des luttes d'influence entre les nombreuses milices et tribus qui tentent de contrôler les ressources et notamment le pétrole. Et alors que deux autorités se disputent le pouvoir avec, d'un côté, à Tripoli, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et de l'autre, l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar qui règne sur le nord-est et une grande partie du Sud. Alors que vous inspire cette situation en Libye 8 ans après la révolution? Dites-nous si ce soulèvement populaire finalement a été une erreur. On va en parler ensemble durant les 20 prochaines minutes et comme à chaque fois, dès qu'il s'agit de la Libye, dès qu'il s'agit de Muammar Kadhafi, vous êtes très nombreux à souhaiter prendre la parole et à vous exprimer. 33 9 693 693 70. Vos réactions évidemment sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-unes pour alimenter la réflexion. Je ne peux pas tous les lire, hein. Toutes les lire, il y a plusieurs centaines de commentaires. Parfois, vous écrivez des, vous nous postez des commentaires particulièrement longs sur une dizaine, quinzaine de lignes. C'est trop long, évidemment. Je ne pourrai jamais les lire en entier sur l'antenne de RFI. Mohamedou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous lancez le débat, vous êtes à Ouagadougou et vous faites partie de ceux qui regrettent cette révolution.
Oui, à l'analyse de la situation en Libye, moi je suis très amer. La démocratie ou le havre démocratique qu'on nous avait promis pour la Libye, nous sommes très loin du compte aujourd'hui. La Libye est un pays déchiré. La déflagration libyenne, elle est arrivée jusqu'aux portes des pays sahéliens, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, jusqu'à la Mauritanie. Mmh. Et c'est un sentiment vraiment de déception aujourd'hui parce que le service après-vente n'a pas été effectué par les Occidentaux et notamment le régime de Sarkozy. Et donc, avec deux gouvernements aujourd'hui, et puis il y a une certaine hypocrisie, il y a un gouvernement central qui est reconnu par les Occidentaux, mais il y a le gouvernement de Khalifa Haftar aussi, qui joue d'une certaine légitimité, puisqu'il rencontre des responsables occidentaux.
Tout à fait.
Et donc, aujourd'hui, c'est un sentiment vraiment de déception qui nous anime, nous qui sommes... dans la bande sahélo-saharienne.
Oui, d'ailleurs, sur Facebook, Jaguar nous dit, depuis la disparition du guide libyen, nous, pays d'Afrique subsaharienne, souffrons du terrorisme chaque jour des Maliens, des Nigériens et tout dernièrement des Burkinabés sont endeuillés par des attaques à cause des armes de Kadhafi, dont les Occidentaux ont contribué à leur prolifération. Vous parliez du service après-vente. J'ai le souvenir de plusieurs chefs d'État de la sous-région se plaindre qu'il n'y avait pas eu de service après-vente après l'intervention de l'OTAN en 2011. Cette intervention, vous diriez aujourd'hui que c'était une erreur. Il ne fallait pas bombarder la Libye. Le souhait de Nicolas Sarkozy, le souhait de la Grande-Bretagne et même des États-Unis, car rappelons-le, il y avait eu le feu vert du président Obama. Tout cela, finalement, est une erreur.
Ce n'est pas une erreur en tant que telle d'avoir essayé d'instaurer la démocratie en Libye. Mais les formes que cette intervention a pris, et puis par ailleurs, on n'a rien fait pour la Libye, pour que la Libye s'en sorte ni démocratiquement, ni économiquement. Et ce service après-vente-là n'a pas été rendu à tel point que aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité sur la direction politique qu'il y a en Libye. Mmh. Il y a aujourd'hui des États qui ne sont pas très démocratiques. Je pense à la Syrie, je pense à l'Afghanistan, je pense au Pakistan, mais c'est la pression qui fait que, bon, il y a des règles démocratiques qui sont instaurées pour que la population vive dans une certaine relative prospérité démocratique.
Ouais.
On aurait pu en faire autant pour la Libye, ça n'a pas été fait. Bon, on avait des choses à reprocher à Kadhafi, on a fait une invasion, il a été tué, et le pays connaît le désastre démocratique et économique qu'on constate aujourd'hui.
Oui, je rappellerai qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, devant le Parlement tunisien, Emmanuel Macron, le président français, avait dit « L'Europe et les États-Unis ont une responsabilité dans la situation actuelle de la Libye ». Il avait reconnu que l'intervention de l'OTAN en 2011 avait été une erreur. Et je reprends ses propos, il disait « Quoi qu'on pense d'un dirigeant, référence évidemment à Muammar Kadhafi, cette responsabilité a consisté à imaginer qu'on pouvait se substituer à la souveraineté d'un peuple pour décider de son futur. » Et le président Macron avait également pointé, comme vous, hein, Mohamedou, l'absence de projet pour gérer la suite. C'est-à-dire que oui, l'OTAN a contribué à l'effondrement du régime Kadhafi, mais quelle alternative l'OTAN a-t-elle ensuite proposé au peuple libyen ? On repasse au standard. Merci Mohamedou, bonne journée à Ouagadougou. Je le disais tout à l'heure en première partie, nous serons à Ouagadougou la semaine prochaine pour plusieurs émissions, dont deux émissions en public enregistrées à la faculté de Ouagadougou. Ce sera l'occasion notamment de dresser un état des lieux de la situation au Burkina, donc venez très nombreux. Je vous en dirai plus évidemment dans les prochains jours. Bonjour Souleymane.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, partagez-vous l'analyse de Mohamedou qui nous appelait de Ouagadougou?
Oui, je partage quelques... Je ne partage pas trop, hein. Parce que pour moi, la Libye reste une préoccupation des Libyens. C'est vrai qu'en ce moment, les Occidentaux n'ont pas laissé un bon héritage. Parce qu'au temps de Kadhafi, il n'y avait pas cette inflation galopante en Libye. Les prix des denrées alimentaires sont en hausse. Et les projets laissés par Kadhafi sont en rade, en fait, quoi, parce que l'État est une continuité. Est-ce qu'il y a la construction de l'autoroute que Kadhafi avait prévue et puis la modernisation de la ville sur un montant de 61 milliards de dollars, je me rappelle à l'époque. Tout cela a été laissé en rade, quoi. Il avait même prévu un train express dans Tripoli, quoi.
Donc pour vous, cette révolution a été une erreur?
Ça a été une erreur, quoi. Pour moi, et puis
voilà. Et en même temps, les Libyens à l'époque voulaient mettre fin à ce régime, à cette dictature qui a duré 42 ans. Ils rêvaient d'un avenir meilleur. Rappelons le contexte à l'époque. Il y avait eu la révolution de Jasmin en Tunisie, dans la foulée, la révolution en Égypte. Les Libyens avaient eux aussi envie de leur révolution.
C'est vrai qu'ils avaient envie de leur révolution, mais la vie est partagée, hein, parce qu'il y avait le camp Kadhafi. Moi, j'étais à Tripoli à l'époque.
Ah bon? D'accord.
J'ai fait presque 2 mois après la révolution, et durant la révolution, hein, avant de revenir au Sénégal.
Oui.
Et pour moi, voilà, les avis ont été partagés, quoi. Il y avait le camp Kadhafi qui aussi tirait, qui voulait maintenir le guide de la révolution. Et il y avait bien sûr que le printemps arabe avec tout qui avait commencé en Tunisie, l'Égypte et puis via la Libye, quoi.
Oui, c'est exactement ce que je disais à l'instant, Souleymane. Merci beaucoup, bonne journée à Dakar. Jean, bonjour. Bienvenue.
Bonjour, chers auditeurs.
Bienvenue, vous êtes à Libreville, au Gabon. C'est une bonne ou une mauvaise chose, cette révolution?
Vous savez, la situation de chaos actuelle en Libye est pour moi à mettre exclusivement à l'actif de M. Nicolas Sarkozy, car il a tout fait pour détruire ce pays. Malheureusement, il a entraîné la France dans cette affaire, il a entraîné l'Angleterre et les autres pays de l'OTAN dans cette affaire. Et comme le disait mes prédécesseurs tout à l'heure, le service à présent n'a pas suivi. Donc, je pense que M. Sarkozy devrait être poursuivi pour son action en Libye. Parce que la Libye est détruite aujourd'hui, ce monsieur se bravane partout, il est en liberté avec son ami Bernard Henri Lévy, il boit du champagne, il danse, il fête. pendant que les gens sont en train de mourir. Mmh. Et donc, vous, en Occident, là-bas, vous êtes exposés avec les migrants qui ne font que défiler. La digue que constituait la Libye aujourd'hui n'existe plus. Ouais. Pourquoi ?
Et alors, les deux points que vous abordez, aussi bien sur Nicolas Sarkozy que l'immigration, reviennent de façon récurrente sur la page Facebook de l'émission. Il y a William qui nous dit « Le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Les Libyens n'ont aujourd'hui que leurs yeux pour pleurer. Les Européens regretteront Kadhafi pendant plusieurs années. Il bloquait pour eux les migrants et filtrait les terroristes. Les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore et devront en supporter durablement les conséquences. » Vous aimeriez que Nicolas Sarkozy s'explique ?
Oui, Erwan, prenez un peu vos responsabilités. Vous-même, toute l'Europe, toute la France, fait que la France n'a rien à voir dans ce conflit en Libye. C'est Nicolas Sarkozy, monsieur Nicolas Sarkozy, qui a décidé de régler les comptes à monsieur Kadhafi.
Oui. Et en même temps, je rappelle le contexte. C'est important d'avoir le contexte en tête. Muammar Kadhafi promettait de nettoyer Benghazi, ville rebelle. Kadhafi disait nous allons nettoyer maison par maison, rue par rue, c'est-à-dire qu'on s'attendait à des crimes contre l'humanité, et il fallait protéger cette population de Benghazi.
Mais ce n'était que du verbiage qu'on connaissait, la rhétorique traditionnelle de monsieur Kadhafi. Il n'avait pas commencé. Vous rappelez, Juan, à peine de 10 jours de révolution en Libye, que Monsieur Sarkozy annonçait déjà plus de 1000 morts. Ce qui était déjà faux. Donc il a commencé à instrumentaliser le monde occidental, il a commencé à instrumentaliser le monde entier pour arriver à sa guerre. Il voulait une guerre, il voulait terminer avec monsieur Kadhafi personnellement.
Je citais tout à l'heure les propos tenus il y a tout juste un an par le président français Emmanuel Macron au Parlement tunisien. Je rappelle, c'est important, qu'il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, un rapport parlementaire britannique accusait clairement le premier ministre de l'époque, David Cameron, d'avoir déclenché cette opération sans vérifier la menace réelle que le régime Kadhafi faisait peser sur les civils. Voilà, regret, accusation. Donc là aussi, le premier ministre David Cameron, britannique de l'époque, était dans le collimateur des députés britanniques. Je voudrais qu'Abdoulaye Tabamako puisse intervenir également. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour, Ivan Gomez, bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons. Quel bilan dressez-vous de cette révolution libyenne?
Oui, c'est plutôt une contre-révolution. C'est les islamistes qui ont pris le pouvoir en Libye avec l'appui aérien de l'OTAN. C'est le contraire d'une révolution. Je pense que la menace que Kadhafi proférait contre Benghazi, c'est du verbe. Mais en réalité, le rapport britannique a été clair. Il a été clair que la guerre en Libye poursuivait d'autres motifs qui n'étaient pas la démocratie.
Il y a des micro-coupures, Abdoulaye, très compliqué de vous suivre. En continu, on va essayer de vous rappeler, évidemment, dans un instant. Blaise nous dit « Le tout n'était pas de renverser et d'éliminer Kadhafi, mais encore fallait-il assurer le service après-vente ?» C'est exactement ce que vous disiez, Abdoulaye. Rodrigue nous dit « La chute du guide libyen a eu des effets très graves sur la population. Aujourd'hui, il n'y a plus de stabilité en Libye. Le désordre règne dans sa totalité. Le banditisme, l'insécurité ont pris le dessus. Tao dresse un bilan plus que négatif. Il parle d'un fiasco total pour la Libye, dans la mesure où ce pays sombre et continue de sombrer et se dirige vers le chaos. Tao, c'est déjà le chaos, hein, malheureusement, en Libye. Abdou, toujours sur Facebook, affirme que la situation en Libye inspire l'apocalypse. Fred, non, ce n'était pas une révolution, mais plutôt l'invasion d'un pays souverain par des forces étrangères. Vous êtes nombreux sur Facebook à nous dire « Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Gomez, vous parlez de révolution. » Ce n'était pas une révolution, c'était, comme le dit Fred, l'invasion d'un pays souverain par des forces étrangères. Allusion, évidemment, à l'intervention de l'OTAN, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne en 2011. On repasse au standard. Charlie, bonjour.
Juan Gomez.
Bonjour Charlie, vous êtes bien là ?
Oui, je suis là.
Ah, très bien, je vous entends. Vous êtes à Paris, nous vous écoutons.
Merci bien. Tous sont unanimes que ce n'était pas une révolution, que c'était un chaos. Moi, je dirais, M. Juan Gomez, que 17 février 2011, 17 février 2019, tout simplement, sans faire de demi-tour, c'était 8 ans de guerre, de désolation, de misère, des millions de personnes livrées à elles-mêmes. 8 ans de dégâts collatéraux que subissent encore les Mali, les Burkina Faso, les Niger, et j'en passe. Et tout cela sous les faits du prince Sarkozy et sous l'œil vigilant de la soi-disant communauté internationale. Monsieur Juan Gomez dit...
Ça veut dire quoi? Il n'aurait pas fallu intervenir en 2011.
Pas du tout, pas du tout. Il est parti pour régler ses comptes et qui a créé une misère, désolation dans un pays où le pétrole, le gaz, l'eau et tout ou presque était gratuit sous le dictateur. 8 ans de désolation qui ont poussé des milliers de dizaines de jeunes africains dans la Méditerranée qui voulaient fuir l'enfer libyen. Moi, je dirais, M. Juan Gomez, comme Berlusconi disait en son temps, je cite, « La chute de Kadhafi n'était pas une révolution, mais un complot français. »
C'est ce que disait l'ancien Premier ministre italien Berlusconi à l'époque. En même temps, l'Union africaine, elle a essayé de s'opposer à cette intervention militaire, elle n'y est pas arrivée. Elle a essayé d'entamer des négociations entre Kadhafi et ses adversaires, elle n'y était pas arrivée non plus.
Oui, parce que Monsieur Kadhafi et disons Sarkozy est parti vite en besogne, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu le feu vert des Nations Unies qu'il avait commencé à bombarder. Moi, c'est pourquoi je dirais que les plus grands dictateurs, ce ne sont pas les Africains. Ce sont ceux qui veulent toujours imposer aux autres leur mode de vie, de culture et de pensée.
Ouais, enfin, juste une précision, il y avait une résolution des Nations Unies, la résolution 1973, qui autorisait les frappes sur la Libye, et j'ai même retrouvé un extrait de cette résolution qui autorisait à prendre, je cite, « toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations », et il s'agissait notamment de protéger la population de Benghazi. Bonjour Idriss.
Oui, bonjour.
Ouh, vous êtes à l'intérieur, ça résonne énormément, ou peut-être avez-vous une oreillette?
Non, j'ai pas de lettre. Vous m'entendez mieux?
Franchement, il aurait fallu peut-être sortir pour qu'on vous entende mieux. Mais on vous écoute, allez-y, on tend l'oreille.
Oui, moi j'estime que le problème de la Libye, tout le monde constate aujourd'hui, que c'est une grosse arnaque de ce 21e siècle. Voilà des gens qui se lèvent un matin, qui décident d'aller tuer un président pour la démocratie.
Attendez, vous savez quoi, Idriss, je suis désolé. Vraiment, dans mon casque, je ne vous entends pas très bien. C'est très compliqué de discuter avec quelqu'un si on ne l'entend pas. Donc essayez de vous déplacer, on vous retrouve, j'espère, d'ici la fin de l'émission. Michael, bonjour. Eh ben décidément, Michael à Douala. Je vous vois, Michael, sur mon petit écran. Il a disparu. Alors, Odon, bonjour. Décidément, on a peu de chance ce matin avec les réseaux de téléphone. Bonjour Odon. Allô.
Bonjour.
Bonjour. J'ai cru que vous aussi, on allait vous perdre. Hein, décidément, ce matin, on a des problèmes avec les réseaux téléphones. Vous êtes à Kinshasa et vous disiez que retrouver la stabilité en Libye, c'était un enjeu majeur aujourd'hui pour le continent africain.
Effectivement, et pas seulement pour le continent africain, mais c'est là également pour le continent européen, même américain, puisque l'instabilité à la Libye crée des foyers de tension partout. Tenez, les Africains passent par la Libye pour atteindre l'Europe. Aujourd'hui, la Libye est devenue un mouroir, pratiquement pour ceux qui veulent atteindre l'Europe, mais également ceux qui veulent atteindre l'Afrique par cette voie-là. La Libye est devenue une maternité des terroristes, alors que le terrorisme, aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde, c'est tout le monde qui doit combattre le terrorisme. Eh bien, tenez que nous sommes tous en danger, et ces dangers-là viennent de la Libye.
Ouais. Mais vous savez, vous dites c'est à l'Afrique et c'est à l'Europe de prendre à bras le corps la situation libyenne. Je rappelle que les Nations Unies ont nommé un représentant en Libye, Monsieur Salamé, qu'il essaye d'organiser une conférence nationale au plus vite pour organiser des élections là aussi dans le courant de cette année. Dans un premier temps, on parlait du printemps. Maintenant, évidemment, on parle de l'été 2019 pour la tenue de ces élections. L'Union africaine, elle aussi, veut organiser une conférence au mois de juillet pour réunir tous les acteurs de la crise. Donc voilà, il y a une mobilisation internationale, sur le papier tout du moins, pour essayer de mettre fin au chaos qui règne en Libye. On aura l'occasion évidemment d'en reparler prochainement